FI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur FI.
Si vous nous rejoignez, nous sommes à Genève, au centre de congrès Palexpo, à l'occasion des 19e assises européennes de la transition énergétique. 3500 participants se sont réunis pendant 3 jours autour d'un thème, coopérer pour réussir la transition énergétique. Coopérer, c'est justement ce que font de plus en plus de citoyens à travers le monde pour se réapproprier leur production d'énergie. Car si dans les pays en développement, il faut créer sa source d'énergie, dans les pays occidentaux, le défi est de s'émanciper des immenses infrastructures trop polluantes créées au XXe siècle pour inventer de nouvelles façons de produire ensemble et au plus près de nos besoins. Ce thème était très présent cette semaine dans les discussions et nous en parlons tout de suite avec nos invités. Bonjour Anne Bringo.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de la transition énergétique au RAC, le Réseau Action Climat, et pour le CLER, je vous laisse nous présenter quelques...
C'est le Réseau pour la transition énergétique qui rassemble 300 acteurs qui mettent en place la transition énergétique dans les territoires, des collectivités, des entreprises et des associations comme les espaces Info-Énergie.
Voilà, la preuve que c'est en mouvement. À vos côtés, Damien Gaucheron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur d'Innoval, que je vous laisse là aussi nous présenter.
Alors Innoval est un pôle territorial de coopération économique, ça tombe bien, puisque l'item de ces assises, c'est coopérer pour réussir, et c'est exactement ce qu'on fait tous les jours, puisque nous sommes issus du monde de l'économie sociale et solidaire, et nous pensons que la transition énergétique réussira s'il s'agit d'une vraie transition citoyenne. Voilà.
Et avec nous aussi Monica Serlavos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en sciences de l'environnement à l'Université de Lausanne et vous faites actuellement une thèse justement sur les projets d'initiative citoyenne, projets d'énergie citoyenne en Suisse romande. Il y en a beaucoup ?
Alors en Suisse romande, on dirait qu'on est un peu à la queue, surtout si on se compare avec la partie alémanique ou avec d'autres pays comme l'Allemagne, le Danemark, même la France. En Suisse romande, on a répertorié 21 initiatives qui existent de ce type pour le moment.
Mais après, c'est peut-être proportionnel au nombre d'habitants. Aussi.
C'est possible, oui. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui n'a pas créé de réseau jusqu'à là. Il n'y a pas un soutien très marqué par les outils politiques et financiers qui existent. Donc ça reste un peu anecdotique, si j'ose dire.
En même temps, Anne Bringo, tout a été fait depuis des décennies pour que dans certains pays occidentaux, c'est valable pour la Suisse, c'est valable pour la France, finalement on ne se pose pas la question de ce qui se passe derrière le bouton que l'on allume pour avoir de la lumière.
C'est vrai qu'on appuie sur son interrupteur et la lumière s'allume, on ne sait pas trop d'où vient l'électricité, on ne s'est pas beaucoup posé la question, en particulier en France, on avait une production très centralisée d'électricité avec des gros réacteurs nucléaires qui produisaient la majorité de cette électricité. Or, la transition énergétique, c'est un modèle complètement différent. On va produire des énergies renouvelables diverses, adaptées à chaque territoire. Donc parfois, on a du vent, on a du soleil, on a du bois, on a de la géothermie. Et tout ça fait venir de nouveaux acteurs qui peuvent s'impliquer, des collectivités, des citoyens, les agriculteurs. Et donc, c'est un changement complet de système énergétique qu'on est en train de vivre.
Alors, pourquoi est-ce que pendant des décennies, tout a été fait pour qu'on ne se pose pas la question ?
Alors, tout a été fait parce qu'on est un petit peu dans une culture, tendance à dire un petit peu ingénieur aussi, ça c'est assez franco-français de laisser la main à ces sujets qui sont soi-disant trop techniques pour que les autres y jettent un œil. Donc on a cette culture de faire des choses très grosses qui marchent très bien et qui produisent pour tout le monde, mais ça fonctionne plus. On voit bien la limite sur les centrales nucléaires qui deviennent de plus en plus coûteuses et vieillissantes pour celles qui sont en place. On voit bien aussi que sur les énergies fossiles, on a l'impact sur les changements climatiques. Les énergies renouvelables, elles, sont de plus en plus compétitives, sont variées, et donc on voit qu'on a d'autres solutions qui arrivent.
Et alors aujourd'hui, les coopératives citoyennes connaissent un véritable boom en Europe, il y en a de plus en plus.
Alors c'est un boom dans certains pays comme l'Allemagne où plus de 50% des énergies renouvelables électriques sont entre les mains des citoyens ou des agriculteurs, donc ils possèdent ces outils de production, ils ont des revenus avec ces moyens de production. On a d'autres pays où ça avance. En France, c'est en train de se développer, c'est plus lent, c'est moins dans la culture française, mais il y a vraiment des acteurs comme Énergie Partagée qui permettent justement d'accompagner l'émergence de ces projets, d'accompagner les citoyens et puis les collectivités avec la loi de transition transition énergétique peuvent investir aussi dans les projets d'énergie renouvelable. Donc il faut qu'elles s'emparent de cette possibilité qui leur est donnée.
Damien Gaucheran, vous partagez ce constat, j'imagine, de dire que c'est important que ces voix soient portées, représentées.
Alors oui, bien sûr, je le partage évidemment en disant effectivement que le mix énergétique français est issu de la culture industrielle nationale très centralisée, très monopolistique. D'ailleurs, on dit que le kilowattheure n'est pas cher du tout en France, mais en vérité, c'est parce qu'il est porté par des financements publics.
Il est subventionné.
Très subventionné. Donc la vérité du prix du kilowattheure n'est pas réelle. Et on constate que si on veut, et c'est un point qui nous intéresse beaucoup à Innoval, si on veut atteindre les objectifs de la transition énergétique. Dans un calendrier, somme toute assez court, on est dans un pas de temps d'une dizaine d'années. 2030, c'est un point de rendez-vous important. On regarde de l'évolution du mix énergétique, de l'évolution de notre consommation. Il faut qu'on s'y mette tous. Et le modèle énergétique national ne permet pas cette mobilisation rapide. C'est pourquoi on porte beaucoup, beaucoup d'intérêt puis d'action sur l'émergence de ces initiatives locales. Parce qu'on voit bien que sans cette prise en main des habitants d'un territoire, à l'échelle d'une commune par exemple, sans cette prise de conscience et cette mobilisation, les grands enjeux climatiques mais aussi économiques, parce qu'on n'en parle pas suffisamment aujourd'hui, des dommages du changement climatique sur les cycles économiques qui seront les nôtres demain, ceux de nos enfants, et bien, s'il n'y a pas cette mobilisation, on n'y arrivera pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés, j'ai envie de dire, à l'échelle des communes pour assister et aider à l'émergence de ces initiatives. Et je suis tous les jours, chaque fois qu'on rencontre ces groupes d'habitants, je suis stupéfait par la qualité de leur engagement, par ces énergies très très positives, ces envies dont ils témoignent de se prendre en main, d'abord sur la question des énergies renouvelables, et puis après ça ouvre le champ sur, c'est des plateformes de dialogue, et on peut imaginer toute autre forme de changement à partir de cette plateforme. Donc c'est une dynamique extrêmement riche et extrêmement intéressante de réappropriation de ces sujets.
Alors on va rentrer dans le concret, dans la manière dont ces habitants s'organisent justement pour créer ces coopératives dans un instant. Mais Monica Serlavos, vous travaillez donc sur ces projets en Suisse romande et notamment sur les motivations des personnes qui se mettent ensemble pour créer leur propre énergie, parce que vous dites c'est pas du tout qu'une question d'ingénieur, justement pour rebondir sur ce que disait Anne Brago, les gens ont bien compris que en fait ça conditionnait leur mode de vie.
Mm-hmm. Oui, justement, et pour revenir sur ce qui a été dit, je pense que c'est super important d'être conscient que quand on parle de transition, on ne parle pas d'une transition technique, mais on parle d'une transition sociétale. Et ça concerne effectivement les modes de vie et la façon dont on va regarder le monde finalement.
Mais en même temps, on a tendance à penser que l'énergie, c'est que de la technologie.
Et je pense qu'une bonne partie de cette transition passe par la démocratisation, pas seulement du système énergétique, mais du propre concept d'énergie. Donc là, justement, avec cette recherche, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui fait finalement que certaines personnes décident de s'engager de façon bénévole, et ça, il faut le dire aussi, dans ce type d'initiative, et la motivation qui ressort tout le temps, indépendamment du type de structure, parce qu'il y en a différentes, c'est des raisons environnementales. Donc, la lutte active, on va dire, contre le changement climatique, agir pour sortir du nucléaire, pour diminuer les émissions de CO2. Mais on trouve une liste de motivations au-delà de ça. Donc, il y a des motivations de type personnel. Donc, des gens qui se disent, non, en fait, il faut changer des valeurs. Il faut qu'on change notre rapport même à la nature. Donc, ça touche les imaginaires autour. Ça touche la cosmovision, finalement, qu'on a et le rapport à l'énergie. Il y a des motivations de type politique. Donc, et là, on rejoint ce qui a été dit, démocratiser le système énergétique.
Se réapproprier son énergie.
Se réapproprier, effectivement, de ce qui se passe et de comment on prend les décisions. Finalement, quelle énergie on produit et pourquoi. Il y a des raisons de type social aussi, donc s'engager avec la collectivité, des raisons économiques évidemment à certains moments.
Damien Gaucheran.
Oui, pour compléter, finalement, le premier acte de la transition énergétique, c'est de diminuer sa consommation. Qu'on le veuille ou non, cette transition sera réussie si, premièrement, on se pose la question de notre addiction à cette surproduction énergétique. Et donc, on rentre dans une première dimension qui touche à la sobriété de nos comportements. Le deuxième sujet, c'est cette énergie renouvelable, elle est présente, elle est autour de nous. Et moyennant un peu d'adaptation technique, on peut l'exploiter localement en diminuant toute une série de déficits économiques et écologiques. Et donc, il y a aussi cette prise de conscience qui est très importante. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que vous disiez très justement. L'enjeu majeur, c'est la massification de cette prise de conscience. Si on veut arriver à maîtriser un peu les dérèglements climatiques tels qu'on les perçoit, et notamment au milieu de montagne où nous sommes aujourd'hui. L'enjeu, c'est vraiment une démarche collective.
Anne Bringo, est-ce que les projets ont toujours un peu la même configuration? C'est-à-dire, on regarde ce qu'il y a autour de nous comme énergie possible, mais d'où ça démarre? Comment ça s'articule tout ça au départ?
Alors, il y a déjà différents types de projets, parce qu'il y a des projets portés par des citoyens. Donc, souvent, ils vont regarder s'ils habitent en ville, par exemple, ils vont regarder ce qui est possible, ils vont penser plutôt à du photovoltaïque, donc des panneaux solaires à mettre sur les toits. Il y a des habitants qui se sont regroupés, par exemple, pour mettre des panneaux photovoltaïques sur une école, ce qui permet également ensuite d'avoir une action d'éducation vis-à-vis des enfants qui voient la production qui est générée et qui discutent justement des réductions aussi de consommation. Donc ça permet d'avoir cette éducation. On peut avoir aussi des agriculteurs qui ont envie effectivement de produire de l'énergie en utilisant leurs déchets agricoles via la méthanisation, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une unité de méthanisation et qui vont ouvrir le capital aux habitants, aux alentours, pour que chacun, effectivement, puisse participer à ce projet. Et puis, il y a des collectivités qui portent des projets également, notamment les territoires énergie positive que le CLER anime et qui sont des territoires plutôt ruraux qui s'engagent vers le 100% énergie renouvelable pour des raisons écologiques, mais aussi parce qu'ils ont réfléchi finalement au monde tant que leur coûte l'énergie qui est importée dans tous les cas, et ils se disent que finalement créer des structures d'énergie renouvelable, des éoliennes, des panneaux solaires, la méthanisation localement, ça va rapporter des revenus, des rentrées fiscales, et donc tout le monde va y gagner, il y aura une création d'emplois. Donc souvent l'argument économique est aussi au moins mis en avant que l'argument environnemental.
C'est ce que vous constatez aussi, Damien Gaucheron, au moment du début de ces projets?
Oui,
sur les motivations,
puisque on monte des projets de sociétés locales de production, en général en format coopératif, puisqu'il y a un sujet autour de la gouvernance. On n'est pas dans des entreprises qui professent d'abord une recherche de lucrativité forte. Et c'est au fond la marque de fabrique extrêmement intéressante et plutôt positive de ces projets d'entreprises coopératives. C'est la façon dont les actionnaires fondateurs acceptent a priori une gouvernance collective. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, mais ça nécessite d'avoir quand même un temps d'apprentissage à travailler réellement ensemble, prendre en charge les contraintes de façon collective, et puis acceptent également une lucrativité limitée de leurs actions. Et ça, c'est un point très important, parce que contrairement au matraquage du système économique dominant dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui nous dit de 6h du matin à 23h, le CAC 40 augmente, le PIB a fait plus, machin, etc., on s'aperçoit que des citoyens sont parfaitement capables d'une démarche économique rentable, mais modestement rentable. On est dans des niveaux de rémunération de l'ordre de 3 à 4 points.
Ben c'est quand même
c'est
mieux
quand même
que certains placements bancaires.
Exactement. Ouais. Ça reste intéressant. Ils sont capables de ces comportements économiques, écologiques et sociétaux vertueux. Et donc, ils font avancer par un maillage très, très local, en utilisant beaucoup le bénévolat également. Donc, il y a une dimension très militante à cet actionnariat. Mais on voit qu'on arrive à recréer des circuits économiques dits courts. C'est un peu à la mode en ce moment, ou l'économie collaborative ou l'économie circulaire. Mais on voit que ce maillage se refait et que ce maillage crée un système économique très local, très résilient, et tout à fait à même de supporter les chocs que l'économie mondiale produit sur les clusters d'entreprises et d'industries. J'en parle en connaissance de cause parce que nous sommes installés dans la vallée de l'Arve, où l'industrie du décolletage a fortement souffert des crises financières alors qu'il y avait une vraie compétence, et qu'on voit que ces systèmes économiques locaux, je confirme, recréent de l'emploi local et puis de l'emploi indélocalisable, parce que l'énergie est là, les actionnaires sont là et les sociétés de production sont en place également localement.
Anne Bringo.
Pour illustrer ce propos, effectivement, juste deux exemples. Il y a un projet citoyen des éoliens en Bretagne, à Bégane, porté donc par des milliers d'habitants qui ont réussi à construire ce parc. Ça n'a pas été simple, mais ils ont fait le choix effectivement d'utiliser les revenus, une partie des revenus de la vente d'électricité, pour embaucher quelqu'un à mi-temps qui va aller dans les écoles faire des actions de sensibilisation sur la consommation d'énergie, voir les ménages pour les aider à rénover, à avoir des pistes pour rénover leur logement. Donc c'est vraiment un projet concret qui n'est pas juste pour avoir plus d'argent, mais pour apporter une valeur au territoire. Autre exemple, il y a des projets qui peuvent vouloir aider des ménages à sortir de la précarité énergétique et qui vont abonder un fonds qui s'appelle Énergie Solidaire, qui lui va aller financer des actions concrètes de lutte contre la précarité énergétique. Donc on voit bien que ça participe à un projet globale et pas seulement à l'idée de créer une énergie renouvelable et d'avoir des revenus avec ce projet.
Oui, transition énergétique et transition économique et transition démocratique, finalement, c'est un cercle vertueux. Alors comment faire pour que ces coopératives citoyennes prennent de l'ampleur en Europe? Nous en parlons avec nos invités au Centre des congrès Palexpo de Genève à l'occasion des 19e assises européennes de la transition énergétique.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Au centre de congrès Palexpo à l'occasion des 19e assises européennes de la transition énergétique. Nous parlons de la montée en puissance des coopératives de production d'énergie citoyenne en Europe. Le pays où il y en a le plus, nous l'avons dit, c'est l'Allemagne, surtout depuis que le gouvernement a annoncé que toutes les centrales nucléaires du pays devront être fermées d'ici 2022. En 10 ans, leur nombre a été multiplié par 10 pour atteindre près de 1000 aujourd'hui, une dynamique constatée par Sarah Roumette.
Il y a un proverbe qui est très connu en Allemagne, notamment dans les régions rurales, et qui dit « ce que l'on ne peut pas faire tout seul, on peut le faire à plusieurs ». Cette phrase, en fait, c'est même le slogan du mouvement des coopératives, une tradition qui est très ancrée dans la société allemande depuis le 19e siècle. Il y a des banques coopératives, qui sont d'ailleurs parmi les plus importantes du pays, des coopératives agricoles, des coopératives de consommateurs, mais ce sont surtout les coopératives d'énergie qui se sont multipliées ces dernières années. Alors, comment ça se passe? Eh bien, des habitants se regroupent et s'organisent au niveau local, voire ultra-local, pour imaginer et financer ensemble des projets de production d'énergie renouvelable. Pour comprendre comment cela fonctionne sur le terrain, il suffit de prendre le train pour se rendre à Rehfeld, par exemple, au cœur du Brandenburg. Rehfeld, c'est une petite commune de 4500 habitants, une rue principale qui longe la voie ferrée et tout autour des bois d'épicéas qui ponctuent la grande plaine du Nord, enneigée en ce milieu d'hiver. En 2012, les habitants de Rehfeld ont fondé une coopérative d'énergie qui rassemble 143 personnes. Chaque part de la coopérative coûte 250 euros. Chaque membre, quel que soit le nombre de parts qu'il achète, possède ensuite une voix au sein de la coopérative. Leur première réalisation collective, ce sont des panneaux solaires installés sur le toit de l'école municipale. Bernd Bechli, le président de la coopérative, nous emmène dans la grande rue, vers l'école.
Qu'est-ce que c'est qu'on voit là, le petit panneau avec des chiffres?
On a installé ce petit écran d'affichage pour que les habitants voient combien d'électricité produisent nos panneaux solaires. Là, vous voyez la production actuelle d'électricité et en dessous la production totale depuis la mise en service. Et le dernier chiffre, ce sont les tonnes de CO2 économisées.
Des panneaux solaires dans le nord de l'Allemagne, cela peut sembler à première vue décalé. Pourtant, malgré une production forcément variable suivant l'ensoleillement et les saisons, un tiers de l'électricité produite est utilisée par l'école en journée et les deux tiers restants sont vendus à un prix subventionné et réinjectés dans le réseau national.
Là, nous sommes devant le gymnase et les deux écoles de la commune. Toute la face sud du toit du gymnase a été recouverte de panneaux solaires. C'est orienté plein sud, ce qui est idéal pour l'énergie solaire.
Comment est-ce que vous êtes venu à l'idée de construire ces panneaux solaires sur, le toit de ce gymnase et à l'idée de cette forme aussi de coopérative ?
Il y a 2 ans et demi, plusieurs habitants ont commencé à réfléchir ensemble comment nous pourrions accompagner le tournant énergétique allemand sur le terrain et comment faire pour utiliser les énergies renouvelables sur place à Rehfeld afin que chaque citoyen puisse en profiter. Pas seulement ceux qui ont beaucoup d'argent, mais que chacun ait la possibilité d'avoir accès à de l'électricité bon marché. C'est comme ça qu'on a fait ce premier projet sur le toit de l'école. Et nous avons d'autres projets plus ambitieux afin de réaliser notre vœu, que chacun des habitants puisse acheter du courant bon marché.
Voilà un exemple en Allemagne avec ce reportage de Sarah Roumette. Damien Gaucheran, comment est-ce que vous réagissez à ce reportage? Est-ce qu'il est emblématique de ce que vous faites vous aussi sur le terrain?
Je réagis de façon positive d'abord parce qu'en effet les Allemands sont très en avance sur nous. Et je dois dire plus largement toute la Scandinavie qui a quand même un rapport à ces sujets-là plus positif, plus simple et probablement plus décentralisé. C'est ce qui explique l'avancée de ces cultures par rapport à des pays plus latins, plus centralisés, y compris dans leur modèle dans leur système de production énergétique. Donc oui, on rencontre exactement ces mêmes volontés de faire à l'échelle très locale, l'échelle d'une commune ou ce que disait le reportage, l'ultra-local, avec des participants, futurs actionnaires, qui sont à la fois très attentifs à l'équilibre économique du projet, très attentifs à son impact écologique. On est bien sur des énergies renouvelables, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et puis très attentif enfin à la dimension vertueuse sociétale. Et on se rend compte qu'à travers ces projets d'entreprise qui rassemblent en moyenne une part dans une coopérative, elle se situe entre 50 et 150, 200 euros. Et j'ai une voix dans la gouvernance du projet. On voit bien combien à partir de cette dynamique de réappropriation, tous les autres champs du possible s'ouvrent. Et c'est ça qui est très intéressant. En tout cas, qu'on travaille avec chez Innoval, en essayant ensuite de faire prendre conscience sur les problématiques de mobilité, particulièrement sensibles dans le Genevois français. 95-98% des déplacements se font en voiture soliste, c'est-à-dire il y a 600 000 véhicules jour qui vont d'un côté et d'autre de la frontière genevoise. Voilà, il faut que ces sujets-là soient également pris à bras-le-corps par la société.
Mais en même temps, on entendait dans le reportage qu'il y avait 143 habitants mobilisés pour une ville de 4500 habitants. Finalement, c'est très peu.
Oui, mais on va dire que c'est la qualité qui prime, ce n'est pas forcément la quantité.
Non, mais c'est-à-dire qu'on parle de tout le monde en même temps, Monica Serlavos, mais c'est vrai que c'est ce que vous observez aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit groupe de citoyens plus agités que les autres.
Alors effectivement, il y a toujours des groupes de meneurs, on va dire. Ce qu'on voit en Suisse romande, dans les initiatives qu'on étudie, en tout cas, c'est qu'en moyenne, ils ont entre 75 et 100 membres. Donc ça reste quand même un peu dans cet ordre-là. Mais je rejoins exactement ce qui vient d'être dit, parce que ce n'est pas l'aspect quantitatif ce qui est important, mais l'aspect qualitatif en tant qu'innovation sociotechnique. Et donc, je pense qu'il faut prendre ça en compte et puis de se dire, ça, c'est des bonnes pratiques qui peuvent se répliquer sur le territoire grâce justement aussi à l'existence des réseaux, etc., qui fédèrent, mais c'est justement ce qu'elles apportent pas en temps, pas à niveau de nombre de kilowattheures qui vont être réinjectés au réseau, mais à niveau des valeurs qui sont derrière, comme la démocratie, comme la solidarité, le partage, etc.
Anne Bringot, qu'est-ce qui empêche le développement à plus grande échelle de ces coopératives, selon vous?
En France, je pense que le premier frein, il est culturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas connaissance du fait qu'on peut devenir propriétaire d'une part d'un outil de production d'énergie renouvelable, qu'on soit citoyen citoyens ou collectivités. Et donc, c'est ça qui fait qu'au départ, on ne va pas forcément avoir l'idée de se regrouper entre citoyens pour créer ce projet. Voilà, concrètement, ce n'est pas le métier d'un citoyen bénévole qui plus est. Ce n'est pas le métier d'une collectivité de produire de l'énergie. Et finalement, chaque projet, on se pose les mêmes questions. Quel statut juridique, quelle gouvernance, quel projet, etc. Et finalement, ce qu'il faut, c'est mutualiser ces expériences. C'est ce que fait Énergie Partagée, entre autres, de justement permettre aux acteurs qui ont créé des projets de former ceux qui ont l'idée de commencer à faire quelque chose et de les accompagner tout du long pour gagner du temps, finalement, partager cette expérience et qu'on puisse mutualiser ainsi et développer le plus de projets.
Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un peu plus de volonté politique en France, certes, mais aussi au niveau suisse et au niveau européen, plus globalement ?
Alors, au niveau politique national, en France, en tout cas, il y a eu des avancées, par exemple, sur les appels d'offres qui sont faits pour les projets de production d'énergie renouvelable. On intègre maintenant un bonus, c'est-à-dire qu'on gagne plus d'argent si on ouvre le capital aux citoyens et aux collectivités. Et finalement, les développeurs ont joué le jeu. Alors, on verra comment ça fonctionne ensuite, mais 60% des projets qui ont été retenus dans le dernier appel d'offres sur le solaire intègrent justement ce bonus participatif. Donc, on voit que c'est quelque chose qui va se généraliser parce que aussi l'État a décidé d'y mettre quelque chose. Alors, ce qui manque maintenant, c'est un objectif. Nous, ce qu'on demande avec un collectif d'associations et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est que l'État acte un objectif de 15% des énergies renouvelables entre les mains des citoyens et des collectivités d'ici à 2030. Ça nous paraît pas beaucoup réaliste et franchement, il faudrait aller vers ce cap-là et qu'on décide de le faire aussi au niveau régional, au niveau local où on a les plans climat et énergie qui sont en train d'être discutés. Donc c'est important, il y a des régions qui font des choses intéressantes comme la région Occitanie qui a un fonds pour accompagner les projets citoyens. Voilà, il y a des choses à faire, notamment au niveau régional, pour favoriser l'émergence de ces projets.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et l'installation de ce studio au Centre des Congrès Palexpo de Genève. Demain, nous serons toujours aux 19e Assises européennes de la transition énergétique. Nous parlerons des perspectives que nous ouvre l'innovation et du rôle essentiel des villes, comme Bordeaux et Genève par exemple. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.